Oui, bonjour à vous.
Comment vas-tu?
Ça va super bien, merci.
Luc, on va commencer avec le sujet que beaucoup de gens attendent d'avoir des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y en est du projet de pont à Sorel-Tresse?
Ben, en fait, on a eu dernièrement, la semaine passée, l'étude économique qu'on attendait. Donc, elle est arrivée. J'ai pas eu le temps beaucoup d'en prendre connaissance. Dans les prochains jours, je vais faire ça. Puis, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ben, c'est un peu qu'est-ce qu'on pensait. Donc, les vrais coûts des traversiers avec la loi de l'accès à l'information qu'on a eue et tout ça. On est capable de voir vraiment que le gouvernement peut effectivement être gagnant là-dedans. Donc, cette étude-là était hyper importante. Il y a deux autres études qu'on peut faire complémentaires à ça, qui est l'étude de retombées économiques. Mais on sait très bien que partout où il y a un nouveau lien, un nouveau pont, comme l'autoroute 25 ou la 30, on sait très bien qu'on a, on n'a pas besoin de faire de grandes études, dans le sens que c'est certain que les retombées économiques dans la région vont être astronomiques. Donc, mais ça va être à faire là, éventuellement, effectivement.
Donc, la prochaine étape, ce sera d'autres études, c'est ça?
Non. Okay, on peut commencer à rencontrer le gouvernement avec ce qu'on a, mais éventuellement, pour si on veut montrer plus à la population les retombées réelles et tout ça, on pourrait le faire. Mais présentement, j'ai les deux études importantes pour rencontrer le gouvernement puis discuter avec eux.
Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions avec le gouvernement? Est-ce qu'il y a une ouverture de ce côté-là ou pas encore?
On a travaillé avec le ministère des Transports. Okay. On les a rencontrés, on leur parle régulièrement. Mais non, au niveau de la politique, on n'est pas rendu là encore.
OK. Comment il était venu, ce projet-là, à la base, d'avoir un pont ici?
Ben, en fait, en 2011, quand j'avais commencé à regarder pour le tunnel dans le coin de Saint-Lambert et Montréal, on avait regardé aussi la possibilité de faire un pont ici. On avait pu reparler, mais quand il y a eu la grève des traversiers dernièrement, c'est là que je me suis dit, bon, on va regarder ça de nouveau. Puis c'est là qu'on a parti la machine. Puis qu'est-ce qui a tout changé? C'est la façon de voir de mon plan d'affaires qui est de prendre un peu l'argent des traversiers qui est jeté à l'eau carrément, là, faut se le dire, dans tous les sens du terme, puis prendre cet argent-là et faire autre chose avec qui est plus intéressant pour la région, là.
Luc, il y a un livre qui sort aujourd'hui, je pense, ou ouais. C'est hier?
En fait, la sortie officielle, c'est lundi.
Oui, lundi, c'est commencé, disponible à la librairie.
Oui, c'est commencé depuis hier, effectivement.
Ça s'appelle Voir grand.
Oui,
comment est arrivé ce projet-là de livre, d'abord?
Ben, depuis 2009, depuis que j'ai sorti d'Occupation Double, il y a plusieurs éditeurs qui m'ont proposé d'écrire un livre. Mais je me trouvais beaucoup trop jeune pour ça, malgré que même à 32, 33 ans, j'avais fait beaucoup de choses. Je me trouvais trop jeune. Par contre, dernièrement, au printemps, Mark Fisher, que j'ai rencontré par hasard, m'a dit « Écoute, ça serait le fun d'écrire ton livre. J'aimerais ça, je me proposerais d'écrire ton livre. » Puis, je connais un peu, j'ai lu quelques-uns de ses livres, puis j'aime son côté romancier, mais qui se prend pas trop au sérieux, puis en même temps, qui rejoint tout le monde. Parce que je voulais pas faire une biographie qui est vraiment juste pour les gens d'affaires, ça m'intéressait pas. Mon livre est vraiment pour monsieur et madame tout le monde, et de tous les groupes d'âge, donc les jeunes peuvent se reconnaître là-dedans. Puis, c'est un livre de motivation en même temps. Et les gens plus âgés aussi vont découvrir que eux aussi ont passé par des étapes semblables à moi où ils peuvent se reconnaître. Donc, autant féminin, masculin également, il y a de l'amour là-dedans aussi. On parle de mes enfants, on parle de ma femme. Donc, ça rejoint un grand, grand public, ce que je voulais d'abord et avant tout, plutôt qu'un livre de biographie standard.
Mais c'est tout un travail, parce qu'il faut retourner dans son passé, avec les beaux et les moins beaux coups.
Oui, absolument. C'est 6 mois de travail qu'on a fait, dont 2 mois durant l'été intensif. Puis, on se rappelle un paquet de souvenirs. J'ai pleuré quelques fois, à quelques reprises, parce que, bon, on parle de ma mère et tout ça, puis dans le livre, quand vous allez le lire, vous allez comprendre. Mais effectivement, mais en même temps, c'est des beaux souvenirs dans le sens que il a fallu que je passe à travers toutes mes photos. J'ai à peu près 40 000 photos, donc j'ai passé à travers toutes ces photos-là pour choisir les photos pour le livre. Puis veux pas, c'est des heures de plaisir parce que c'est vraiment là, tu te rappelles de plein de choses, là. Donc souvent, on n'a pas le temps de prendre le temps. Puis durant les 2 mois d'été que j'ai fait mon livre, j'ai passé des beaux moments là, à me rappeler des souvenirs.
Ça commence avec l'enfance, évidemment. Oui. Les parents se séparent alors que tu es très jeune.
Oui.
Et la maman sur l'aide sociale fait tout pour essayer de subvenir et d'être avec ses enfants tout le temps. Donc, oui. Elle n'a pas de travail, elle reste avec vous à la maison. Et toi, déjà en sixième année, tu veux commencer à faire des sous.
Oui, mais en fait, effectivement, je pense que je suis né avec la fibre entrepreneur. Un peu plus tard, quand on commence le secondaire, qu'est-ce qui me fait prendre conscience, en fait, qui m'a donné l'élan encore plus, c'est que je voulais être comme tout le monde au niveau de l'habillement, parce que, veux pas, je voulais m'acheter des gazelles dans le temps, c'était des Adidas, là.
Ouais.
Puis, je pouvais pas me payer, ma mère pouvait pas, parce que si elle les achetait à moi, il fallait que
les au frère aussi.
C'est ça, exactement. Donc, tu sais, on a le sentiment d'appartenance qui commence, là, à l'adolescence. Puis, pour moi, pour tous les enfants de cet âge-là, ça commence souvent par l'habillement, t'sais. Donc, je voulais être habillé un peu comme les autres. Puis, en même temps aussi, c'est que je voulais jouer au hockey. Puis, en fait, depuis que j'étais tout jeune, je jouais au hockey dehors avec les balles oranges, mais j'avais pas l'argent pour m'inscrire dans la ligue et m'acheter l'équipement non plus. Puis, j'avais jamais eu de patin, donc je savais pas patiner. Puis j'ai commencé à 14 ans. Quand j'ai commencé à faire des sous, je me suis inscrit dans une ligue. Puis il y a un beau chapitre là-dessus dans le livre qui est très, très intéressant. Là. C'est une belle histoire, juste ce chapitre-là est très intéressant.
Oui, parce que les clubs ne te voulaient pas.
Non,
parce que tu n'avais pas patiné à 14 ans. Les autres jouaient depuis qu'il y avait 6 ans.
Exactement, exactement. Puis j'ai fini que j'étais le meilleur de la ligue et j'étais trop fort pour la ligue. J'ai monté deux fois dans cette année-là. Donc, c'est une belle histoire de courage, là.
Tu veux ça, tu veux inspirer les gens avec ce livre-là. D'ailleurs, c'est la première phrase qui est écrite dans le livre, que tu souhaites inspirer les gens. Est-ce que tu trouves qu'on manque de ça un peu, d'histoires inspirantes dans cette terre de cynisme-là?
Ben, peut-être un peu, parce que, en fait, la nouvelle génération, c'est moins pire, là. Anciennement, c'était mal de réussir, de faire de l'argent. Je pense que ça commence tranquillement à changer au niveau canadien-français. Les anglophones, c'est différent. Donc, oui, j'espère inspirer le plus de gens possible. Puis, je le fais quand même avec tout ce que j'ai fait. Des fois, on me demande dans les écoles à faire des conférences et tout ça. Puis, je sais que j'en inspirais déjà, mais là, je veux passer à la vitesse grand V. Je veux que tous puissent voir grand eux aussi, parce que si tout le monde réussit mieux, ben tout va mieux aller. Là,
ta première business, c'est les cartes de hockey?
Ouais, ma première vraie business, c'est les cartes de hockey. J'ai commencé à vendre des bonbons, comme j'expliquais dans le livre, un peu plus jeune, mais c'est vraiment les cartes de hockey qui a tout changé. Et éventuellement, l'immobilier. Donc, à 19 ans, l'immobilier qui a tout changé.
Quand tu as commencé à collectionner les cartes de hockey et à en vendre dans des salons d'exposants, est-ce que tu t'attendais à faire autant d'argent?
Ah non, pas du tout. J'ai commencé ça par passion. En fait, tout ce que je fais, normalement, c'est par passion. Puis l'argent vient parce que je suis passionné puis j'aime ce que je fais. Mais non, les cartes de hockey, bon, j'en avais trop. Normalement, j'en avais trop. J'ai collectionné depuis je vendais des bonbons puis tout ça. Donc, j'en avais beaucoup. Puis en même temps, je voyais qu'il y avait une opportunité d'affaires. Mais je savais pas, jamais j'aurais cru que je ferais autant d'argent. J'ai fait beaucoup d'argent parce que j'ai compris rapidement un principe d'affaires qui était la différence des marchés. Ici, par exemple, au Québec, les gens aimaient les Canadiens français qui jouaient au hockey, dont Patrick Roy. Puis à l'extérieur du Québec, c'était surtout les joueurs anglophones comme Wayne Gretzky à l'époque, Mark Messier et les autres. Donc moi, j'utilisais ce pouvoir-là de savoir que ici, c'était plus les Français. Donc j'achetais de l'extérieur les cartes de Québécois.
Donc, à faible coût, ouais. Parce que les autres s'en départissaient.
Exactement. Puis moi, je revendais, exemple, un Wayne Gretzky, 500$ que j'avais échangé contre un Patrick Roy ici à 20$ que ça valait. Donc, à chaque échange comme ça, c'était beaucoup d'argent.
Et ça t'a permis d'avoir ta première voiture secondaire.
Oui, j'allais au secondaire 5 avec une Porsche Turbo, effectivement.
Ce qui est rare quand même, là.
Oui.
Et toi, t'avais été intimidé, c'est ce qu'on lit dans le livre. Plus jeune, tu te faisais écœurer à l'école.
Ben, de toute ma jeunesse, là, jusqu'à temps que j'arrive avec une Porsche Turbo.
Oui, c'est ça
que
j'allais dire. Est-ce que ça a changé le regard?
Ah oui, c'est certain, là. C'est certain qu'on me prenait très au sérieux. Puis tout le monde voulait être ami avec moi, bien évidemment. Donc, mais oui, toute ma jeunesse... Ça a commencé à cause de l'habillement. Veux pas, tu t'habilles pas bien. Puis j'avais des grosses lunettes aussi. J'étais un peu nerd, là, faut le dire. Là. J'avais un look nerd. Là. Donc en partant, ça allait pas bien. J'étais bon à l'école, donc ça aussi. Là. Donc oui, je me suis fait amplement dénigré et tout. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est peut-être à cause de ça que j'ai du caractère, tu sais.
T'as forgé ton caractère.
Ouais, exactement, exactement.
Et t'as eu la leçon, dans le livre d'ailleurs, t'en parles, qu'il faut être gentil avec les gens. Ouais, ta mère a été bénévole, s'est impliquée beaucoup et ça t'a servi à toi aussi. Les contacts que ta mère a eus te sont servis beaucoup.
Oui, à plusieurs reprises. À trois reprises, les contacts avec son bénévolat m'ont aidé grandement. Puis moi-même, en étant au secondaire, j'ai été gentil avec tout le monde. Je défendais, j'étais le Robin des Bois, je défendais. Même si j'étais moins humilié, je défendais les autres. Puis aujourd'hui, ces mêmes gens-là, souvent, sont propriétaires de grosses entreprises. Puis en les revoyant, c'est retour de l'appareil des fois pour d'autres choses, etc.